en deux noirs, le retour. Et pour répondre à la pressante demande de nombreux auditeurs qui entendent peu Jacques en ce moment dans les dernières éditions, eh bien, exceptionnellement, je vais lui laisser longuement la parole pour nous parler d'un auteur et d'une découverte sympa qu'il a fait dans ce printemps pourri.
En effet, l'auteur s'appelle Thierry Bourcy. Ses romans, il y en a 5, se passent pendant la guerre de 14, la Grande Guerre, comme si une guerre pouvait être grande, n'est-ce pas ? Elles mettent en scène un flic qui s'appelle Célestin Louise. Mais comme évidemment on est pendant la guerre, lui il n'est pas flic, au départ il est simple soldat. Le premier roman, donc, qui vient d'être réédité dans la collection Folio Policier, qui était paru auparavant dans la collection Nouveau Monde Édition. Alors ce premier roman s'appelle La Côte 512, donc ça fait allusion à une position militaire.
Ah, militaire, j'ai peur.
Donc ce roman débute en octobre 14, c'est la mobilisation générale vient d'être décrétée.
Voilà pourquoi je te laisse la parole.
Exactement. Célestin Louise est flic, il pourrait donc retarder l'appel, mais il décide de s'engager, il ne veut pas rester à l'arrière. L'horreur du front arrive très très vite, dès les premières heures dans les tranchées. On a guère le temps de se faire des amis, tout juste des camarades. On partage un peu de pain, de vin, de gnôle. Bon, la gnôle était pas mal utilisée pour donner du courage aux gens avant de partir à l'assaut pour sortir la tête des tranchées.
C'est une technique bien connue, on les rend un peu inconscients comme ça.
Exactement. Donc ce Célestin Louise se lie pourtant quasiment d'amitié avec le jeune lieutenant, un bourgeois qu'il a rencontré, c'est précisé par lui-même, un bourgeois qu'il a rencontré peu avant d'atteindre le front, alors que en fait un voleur tentait de dérober le sac de la compagne du lieutenant. C'est un peu compliqué. Et lors d'un énième assaut à cette côte 512, le lieutenant de Morange, c'est son nom, tombe mort tout près de Célestin, avant même la riposte de l'ennemi. Célestin se rend compte qu'il a été tué d'une balle dans le dos.
L'ennemi faisant face.
Voilà, une balle française donc.
De plus.
Et s'en rend compte juste avant de finir lui-même au fond d'un trou emporté par le souffle d'un homme. Et même à la guerre, bien que ce soit plus son rôle vraiment, il va se mettre à enquêter, flic un jour, flic toujours, comme on dit. Surtout qu'il devient assez vite la cible du tueur, parce qu'apparemment son enquête gêne. Bon, j'ai un peu résumé, raconté un peu longuement, mais en fait l'enquête est pas mal foutue, mais elle sert surtout de prétexte à raconter la guerre de 14, où des officiers incompétents, distants, pleins de morgue, ne se préoccupaient guère de leurs hommes, qui sont pour eux que des pièces de boucherie qu'on lance en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et on l'envoie à l'abattoir. Ici, bon, le feu de l'ennemi, juste pour gagner quelques mètres entre deux assauts, et puis on fait un repli, et puis on compte les morts, et puis on essaye d'évaluer une stratégie. Bon, il raconte très bien ça. D'ailleurs, il nous donne son opinion sur les militaires dès la page 15.
Et tu vas avoir fait une joie indicible de nous le lire.
Voilà. Le gouvernement avait choisi la guerre. Avait-il seulement eu le choix ? Célestin ne gardait pas un très bon souvenir de ses 2 ans de service militaire à Brive. 2 années d'abrutissement, sous les ordres de quelques ganaches arrogantes et stupides, d'exercices inutiles et de promiscuité pesante.
C'est,
au moins, ça a le mérite d'être clair. On pense évidemment au film de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, qui évoque
et après
aussi,
Vert, quelle connerie la guerre.
Voilà. Mais c'est très très bien écrit, les scènes de bataille sont super bien rendues. Il y a un moment, une attaque au gaz mortel, qui n'était pas du gaz sarin à l'époque, qui est criante de vérité, enfin du moins criante de vérité, pour autant que je puisse en juger, parce que j'en ai jamais subi, heureusement. Quant à l'enquête elle-même, c'est un bon flic, et à partir de très très peu d'indices, il découvre une piste et puis il la suit jusqu'au bout. Il ira même jusqu'à chercher le cadavre du lieutenant, nuitamment, au milieu d'un charnier. Parce qu'à l'époque, ils ne se gênaient pas trop pour enterrer les gens. Ils n'avaient pas bien le temps, il faut bien dire.
Vu les millions de morts, c'est sûr. Voilà. Je crois que ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas un polar historique. Quoi. Le thème de la guerre est un vrai thème de roman noir.
Voilà, exactement.
Et que c'est vrai qu'il y a une enquête.
Bon, c'est aussi un peu un polar historique, mais pas que ça. Quoi. Ils ne se contentent pas de décrire des batailles, des trucs comme
voilà.
Ça. Et donc, en fait, celui-là m'avait bien plu, donc du coup, j'ai été en lire un autre, et j'ai pris le dernier de la série, qui est le 4e, il s'appelle Les Traîtres, et ce coup-ci, l'action se situe en mars 17. Donc, il est paru aux éditions du Nouveau Monde.
Donc, en fait, les quatre, au départ, sont parus
aux éditions du
Nouveau
Monde, voilà,
en grand format.
La Côte 512 est rééditée en mars, je crois, chez Folio Policier. Je pense qu'ils vont rééditer les autres au fur et à mesure. Là, le dernier en date, et il va encore en faire un ou deux, parce qu'en fait, cette série se terminera, d'après ce que j'ai lu sur son site, avec la fin de la guerre. Donc, les traîtres. Donc là, comme je disais, on est en mars 17. Les généraux, ma foi, font toujours autant de conneries, et les tranchées sont toujours là, et plus que jamais. On est loin de la bonne humeur du départ qui faisait voir les Français à Berlin en quelques semaines. Et il commence à y avoir des mutineries qui sont châtiées dans le sang. D'autre part, un peu partout sur le front, forcément, il commence à s'organiser des petits et des gros trafics. Au début du roman, là, donc, un jeune soldat qui profite de son temps libre pour pêcher dans l'étang voisin qui est situé entre les deux lignes. Ça, c'est le petit trafic, en fait. Il pêche du poisson, puis il va le revendre pour améliorer l'ordinaire. Mais en fait, il découvre un cadavre français poignardé. Et c'est sûrement pas pour du trafic de poisson qu'il a été poignardé. Et le flic soldat, ce brave Célestin Louise, va reprendre une nouvelle fois du service, et ce coup-ci à la demande d'un officier des services secrets. On entre un petit peu vaguement dans l'espionnage. Bon, ça c'est la trame. En fait, parce qu'il découvre surtout les services secrets que le trafic est couvert en haut lieu, donc au niveau des généraux, de l'armée, des colonels. Donc
les poissons, évidemment, c'est pas du menu fretin. Comme
voilà. Et donc c'est pour ça qu'il enquête en secret, parce qu'en plus il est menacé par la police militaire, enfin menacé, recherché par la police militaire. Mais il sera aidé par ses copains des récentes brigades du Tigre. Là, c'est pour remettre un petit peu dans les choses.
Valentin, le commissaire Valentin.
Voilà, il n'est pas là, mais presque. Hein. Je ne me rappelle pas son prénom, mais ce n'est pas Valentin. Enfin, son nom. Dans celui-là, l'intrigue est beaucoup plus, j'ai trouvé qu'elle était, par rapport au précédent, beaucoup plus forte, plus prégnante. La guerre est toujours là. Mais c'est vraiment, il insiste vraiment sur l'enquête et puis sur l'espionnage, les trafics en haut lieu qui trafiquent avec, évidemment, ces trafics se font, on s'en apercevra et on s'en doute. D'ailleurs, ça s'appelle les traîtres en gros, donc il n'y a pas de secret, ils trafiquent avec
l'ennemi. Je crois que l'intérêt de ces livres, c'est justement de raconter les entre guillemets à côté. Ces événements, c'est-à-dire tout ce qui se passe, toutes les choses périphériques qui peuvent arriver quand on est dans les tranchées ou dans les...
Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ce roman-là, Les Traîtres, est paru quasiment le jour de la mort de Lazare Ponticelli, qui était le dernier des poilus vivants. Je ne pense pas que ça ait de rapport, mais
non,
c'est
la coïncidence. Non, je ne pense pas non plus, parce que c'est prévu depuis longtemps. Voilà, rassure-nous, est-ce qu'on peut lire les quatre dans le désordre?
Ah oui, on peut les lire dans le désordre, il n'y a aucun problème. Il y en a un, le prochain que je lirai, s'appelle « L'arme secrète de Louis Renault ». C'est Louis Renault qui avait inventé le premier char d'assaut, en fait.
Ça me semble manquer singulièrement de personnages féminins, quand même, là.
Ah si, il y en a dans les... Si, parce que ce qui s'appelle un peu le repos du guerrier...
Bon, d'accord.
À chaque fois, ce brave Célestin trouve une charmante femme avec laquelle il n'a pas forcément de rapport autre, en tous les cas
qu'intellectuel.
Voilà, condamnable par la morale. Mais il y a des femmes. Enfin bon, à la guerre, généralement, il y a le plus souvent des hommes, bien que les femmes sont souvent la cause des guerres, n'est-ce pas?
Ça y est, oh là là, mon Dieu. Nous allons nous arrêter là sur ce sujet.
Non, si juste Thierry Bourcy, en fait, c'est un auteur que je ne connaissais pas, mais vous l'avez sûrement vu parce qu'il a fait pas mal de télé. Il travaille avec le fils de Stelio Lorenzi, dont j'ai oublié le prénom, Jean-Louis. Il a fait du cinéma, de la télé, il a même écrit des chansons. C'est un multitâche, cet homme.
En tout cas, une jolie découverte.
Une jolie découverte, oui. Il a commencé à écrire ce livre, justement, en ayant fait un documentaire sur la guerre de 14. Et ça serait assez sympa s'il adaptait ça pour la télé, une télé publique. On espère qu'elle va durer un petit moment.
Voilà. Un petit morceau de musique.
Un petit morceau de musique qui n'a strictement rien à voir. C'est un bluesman norvégien qui joue tout seul d'une guitare à 12 cordes avec un...
Avec ses petites mains.
Ses mains et un bottleneck. La chanson, vous la connaîtrez peut-être parce qu'il reprend un tube qui n'a strictement rien à voir avec le blues ni avec la Norvège. C'est un tube de Motorhead qui s'appelle Ace of Spades. We're gonna play, we're gonna do what you say. C'est du blues.
Sous ces applaudissements nourris, nous allons terminer en de noir sur Ago FM par Craig Holden. Craig Holden, c'est son quatrième livre chez Rivage Noir. Je n'avais même pas parlé. Le précédent, Lady Jazz, m'avait pas laissé un souvenir impérissable. C'est pour ça que je l'avais laissé un petit peu au fond de la liste, au fond de la pile, pardon. Et puis, c'est une super découverte. C'est un livre qui est paru en février-mars. Et donc, c'est un livre qui s'appelle La Rivière du Chagrin. Donc, Craig Holden, Rivage Noir pour 10,50 €. C'est en fait le livre d'ailleurs qui a fait, qui a rendu Craig Holden célèbre, qui a révélé en fait cet auteur aux États-Unis. Et c'est vraiment un livre qui a beaucoup, beaucoup de qualité. Bref résumé de l'histoire, on est dans une petite ville du Midwest américain et le personnage principal, Lancaster, un toubib qui, mais vraiment dans les premières pages, hein, ça dure juste 4 ou 5 pages, semble avoir vraiment réussi. Responsable d'un service des urgences à Morgantown, cette ville du Midwest américain, donc il s'occupe aussi gentiment d'un dispensaire pour les drogués du coin. Puis tout de suite, on découvre qu'il revient de loin, parce que à Détroit, dans une autre vie, son addiction à la drogue l'a poussé à piquer, donc de la drogue, là où il était interne. Procès, il n'est pas renvoyé s'il fait de la rééduque, donc tout va bien. Et puis c'était un autre temps parce qu'il était amoureux fou de Denise, qui, comme il dit, lui a dérobé sa vie en le quittant juste après pendant sa cure de désintox. Donc là, on le retrouve rangé des voitures, mais en fait, son passé va très vite le rattraper. Un grand brûlé est admis dans son service, qui est impliqué dans un trafic de drogue. Tout de suite après, une mystérieuse jeune femme qui va vraiment se découvrir et se dévoiler, mais tout au long, je dirais presque page par page, et ça c'est vraiment une des très belles idées de narration de Craig Holden. Donc cette mystérieuse jeune femme lui demande son aide pour un jeune junkie, oh c'est dur à dire ça.
Un jeune junkie?
Ouais, pour un jeune toxico que connaît Lancaster. Et pour que Lancaster aide cette femme et ce jeune homme, il va être obligé de replonger dans son passé. Bientôt, c'est plus pour aider la jeune femme, d'ailleurs, c'est pour sauver sa propre peau. C'est une narration que j'ai vraiment trouvée très, très intéressante. Le fait de replonger dans son passé, c'est pas de la nostalgie, c'est pas de la mélancolie, c'est pas des souvenirs, c'est d'être obligé, encore une fois, c'est une urgence pour sauver sa peau et quelques autres aux alentours. Et puis la façon dont il parle de la poudre blanche, la façon dont il parle de la drogue, ben ça change, c'est complètement politiquement incorrect et c'est vachement bien. C'est pas pour ça qu'il dit que c'est bien, attention, hein. Donc je rappelle le titre: Craig Holden, La rivière du chagrin. Vous le trouvez encore sur les rayons, c'est chez Rivage Noir. Ça date du début du printemps, vous savez, quand il y avait un printemps avant, et voilà, mars 2008.
Et il reparaît aussi un Craig Holden dans la collection Folio Policier dont on parlait tout à l'heure, courant du mois de juin.
Et bien voilà, même plus le temps pour écouter quelques secondes de notre générique. On vous dit au revoir et à bientôt.
Agora vous donne l'heure. 19h sur Agora FM. Bon appétit à tous.